Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Du 26 au 29 septembre, à la demande du pape Benoît XVI, les Journées mondiales des catéchistes se tiennent à Rome. 4 jours de pèlerinage international. Vous entendrez le cardinal André 23 dans ce magazine. En Syrie, des oulémas lancent une fatwa contre les minorités religieuses du pays. Elle incite à confisquer les biens de ceux qui ne professent pas la religion sunnite. Pacem in Terris, publié il y a 50 ans, le 11 avril 1963, est aujourd'hui d'une grande actualité. C'est ce qu'ont souhaité mettre en lumière ce jeudi matin les présidents et secrétaires du Conseil pontifical Justice et Paix. Le centre de télévision du Vatican fête ses 30 ans au mois d'octobre. C'est exactement le 22 octobre 1983 que naissait la télévision du pape à l'initiative de Jean-Paul II. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Les journées mondiales des catéchistes ont débuté à Rome ce jeudi. Le pape Benoît XVI est à l'origine de cette initiative qui se conclura ce dimanche avec la prière de l'Angélus du pape François. Les 2 derniers jours de ce congrès mondial des responsables diocésains de la catéchèse seront dédiés à un pèlerinage international. Il se déclinera en un itinéraire de foi étudié pour des catéchètes, de Paul à Pierre, de la foi annoncée à la foi professée, en faisant découvrir aux pèlerins l'étape dénoncée de la foi qui s'est vécu au moment du Concile de Trente et de la publication du premier catéchisme de l'Église catholique. Ces temps forts prendront également appui sur l'art et l'architecture de la ville éternelle. Déjà le dimanche 15 septembre, le cardinal André 23, archevêque de Paris à l'occasion de la Journée pour la Jeunesse dans son diocèse, avait adressé un message clair sur le catéchisme. Il rappelait que la mission de l'Église est d'annoncer le Christ, de transmettre sa parole d'espérance, d'expliquer ses appels à la conversion de vie, de mettre en œuvre une fraternité entre ceux qui le suivent. Écoutez le cardinal André 23, il est au micro de Xavier Sartre.
Il y a des éléments structurants qui sont liés à la période de l'enfance, à la période de la confiance qui doit exister entre un enfant et sa famille, de laquelle il reçoit une éducation, des valeurs, des pratiques, des mœurs, et puis la découverte de la personne du Christ, proportionnellement à leur âge évidemment, qui devient un élément fondateur pour toute l'existence. Je veux dire qu'on peut avoir au long de sa vie des crises, des périodes d'inquiétude, de doute, etc. Mais ce qui a été mis en place dans cette période de l'enfance et de la jeunesse reste un fondement. Donc ça, c'est une chose importante. Et la deuxième chose importante, c'est évidemment que le travail qui a été produit par l'Église pendant les 4 derniers siècles, depuis le Concile de Trente, sur la mise en œuvre d'un catéchisme organisé, qui a correspondu aussi à la diffusion de la scolarisation dans l'Europe de l'époque, permet de faire ressortir la structure organique de la foi à travers la présentation du catéchisme.
Comment aider justement les parents dans cet apprentissage ?
Il faut d'abord les convaincre d'être des parents. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être des catéchistes diplômés. On leur demande d'être, par leur relation personnelle, leur relation exceptionnelle avec leurs enfants, d'être des témoins qualifiés d'une certaine manière de vivre, d'un certain art de vivre, de certaines vertus fondamentales de l'existence, et puis de la décision qui leur appartient de mettre cet enfant en situation de découvrir le Christ. Mais nous savons que cet itinéraire à travers lequel le jeune enfant va découvrir le Christ se construit très lentement et à partir de gestes très élémentaires. Je vois souvent quand je visite des paroisses le dimanche, des parents qui portent leurs petits dans les bras et qui leur font faire le signe de croix. Il n'y a pas de contenu didactique là-dedans. C'est un geste mimétique qu'ils transmettent à leur enfant. Mais ce sont des gestes aussi élémentaires qui vont petit à petit ouvrir l'esprit de l'enfant à la présence du Christ.
Le cardinal André 23, archevêque de Paris, un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. On ne fait pas la connaissance de Jésus en voyageant en première classe. Une nouvelle phrase du pape François qui fait mouche est prononcée ce jeudi matin lors de la messe qu'il célébrait en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. On ne peut connaître Jésus sans avoir de problème, a encore expliqué le pape. Et je dirais même plus, si tu veux avoir un problème, prends le chemin de la rencontre avec Jésus. Et ce n'est pas un, mais tout un tas de problèmes que tu auras, lancé le pape François. La veille, il avait célébré la messe dans la maison Sainte-Marthe en présence du patriarche d'Antioche des Maronites, Béchara Boutros-Rail, accompagné d'un groupe d'évêques maronites venus notamment du Liban, de la Syrie et de la Terre Sainte. Était présent également le cardinal Leonardo Sandri, président de la Congrégation pour les Églises Orientales. Dans son homélie, le pape a exhorté son auditoire à ne pas cesser de prier pour la paix en Syrie, au Liban et au Proche-Orient. Ce vendredi, le pape recevra en audience le patriarche de l'Église grecque-orthodoxe d'Antioche, Jandis Yazigi, c'est ce qu'a annoncé l'Osservatore Romano. Ils évoqueront notamment la situation en Syrie ainsi que les relations entre l'Église catholique et le patriarcat. Le patriarche de l'Église grecque-orthodoxe d'Antioche est le frère de Mgr Paul Yazigi, archevêque grecque-orthodoxe d'Alep, enlevé en avril dernier avec Mgr Marc Gregorios Ibrahim de l'Église syro-orthodoxe, dont on est encore aujourd'hui sans nouvelles. Des responsables religieux islamiques incitent à la violence interconfessionnelle en Syrie. Les oulémas sunnites de Douma, un faubourg de Damas contrôlé par la rébellion, ont publié une fatwa, c'est-à-dire un décret religieux qui incite à confisquer les biens de ceux qui ne professent pas la religion sunnite du prophète. C'est l'agence Fides qui en a révélé l'information. Les explications de Xavier Sartre.
S'emparer des biens, maisons et propriétés des chrétiens alaouites et druzes ainsi que ceux des membres d'autres minorités religieuses. Voici en résumé ce que prescrit le décret religieux publié par 36 oulémas syriens. La vie des minorités syriennes dans le cadre du conflit est en effet de plus en plus difficile. La fatwa invite ouvertement à boycotter et à interrompre toute relation avec les habitants de Damas qui ont trahi les révolutionnaires ou les ont abandonnés. Le décret religieux, dont Fides a reçu une copie, souligne que les propriétés confisqués seront utilisés en partie pour acquérir des armes et en partie pour aider les orphelins, les pauvres, les familles des martyrs et les veuves. Les représentants des églises chrétiennes de Syrie ont pris connaissance du contenu de cette fatwa avec beaucoup de préoccupation. Ils remarquent que des appels de ce genre ne font qu'aviver la violence sur base confessionnelle qui meurtrit la société syrienne.
Xavier Sartre. Ce jeudi, la commission bilatérale entre le Saint-Siège et l'État de Palestine, qui s'est occupée d'élaborer un accord global, a tenu une session plénière au Vatican. Objectif, prendre connaissance du travail mené de manière informelle par le groupe technique conjoint et programmer les développements futurs avec l'intention d'accélérer la conclusion de l'accord. La dernière rencontre officielle s'était déroulée à Ramallah, au siège du ministère des Affaires étrangères de l'État de Palestine, le 30 janvier 2013. Les discussions ont été menées ce jeudi par Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les rapports du Saint-Siège avec les États, et par l'ambassadeur Rawan Souleyman, ministre des Affaires étrangères adjoint pour les questions multilatérales de l'État de Palestine. Les deux parties sont tombées d'accord pour que le groupe technique conjoint poursuive ses travaux en préparation de la prochaine réunion plénière de la commission bilatérale. Elle est prévue pour début 2014.
Yeah.
Pacem in Terris, publié il y a 50 ans, le 11 avril 1963, est aujourd'hui d'une très grande actualité. C'est ce qu'ont souhaité mettre en lumière ce jeudi matin les présidents et secrétaires du Conseil pontifical Justice et Paix. Le cardinal Peter Turkson et Mgr Mario Tozzo présentaient en salle de presse du Saint-Siège les trois journées célébrant le cinquantenaire de l'encyclique du pape Jean XXIII qui se tiendront les 2, 3 et 4 octobre prochains, l'initiative du dicastère. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le cardinal Turkson, interpellé sur les violences dont sont victimes les chrétiens, s'est exprimé en faveur d'une loi, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies contre la persécution des chrétiens. Il s'est également attardé sur la force de cette encyclique, adressée à tous les hommes de bonne volonté, publiée en pleine guerre froide sur sa vision prophétique et sur les nouvelles menaces qui pèsent aujourd'hui sur la paix dans le monde. Hélène Détombe.
La liberté religieuse, en particulier la question des persécutions des chrétiens, la crise économique qui est avant tout une crise morale, les conflits toujours plus nombreux pour l'accès aux ressources naturelles, mais aussi l'armement, autant de défis qui représentent aujourd'hui une menace pour la paix dans le monde, tous seront débattus lors des trois journées commémorant le 50e anniversaire de Pacem in Terris. Un cinquantenaire dans un contexte très différent, marqué notamment par les conflits au Moyen-Orient et en particulier en Syrie. Mgr Tozzo, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, invite à relire l'encyclique de Jean XXIII qui appelle à un désarmement des âmes, à l'instauration d'une confiance réciproque et surtout à la volonté de construire un monde pacifique.
Questa idea della costruzione di un mondo pacifico può rappresentare una prospettiva.
Cette idée de construction d'un monde pacifique peut représenter une perspective et constituer un plan stratégique à long terme pour reconstruire un État de type démocratique fondé sur la liberté, sur une cohabitation pluraliste de différentes ethnies et religions.
Autre thème qui sera au centre des trois jours de discussion et de débat, le travail comme bien fondamental pour réaliser la paix. Une réflexion sera menée sur la justice sociale et les politiques sociales et sur le rôle des universités pontificales et catholiques vis-à-vis des nouvelles générations de catholiques engagés en politique, un rôle que le cardinal Turkson a jugé capital.
Hélène Détombe. Et répondant aux questions des journalistes sur la crise syrienne, le président du Conseil pontifical Justice et Paix a invité à observer les situations dans les pays après la chute des dictateurs et notamment la situation des chrétiens. Il appelle également à vérifier ce que certains disent, à savoir qu'il existe un mouvement salafiste qui veut s'installer partout avec l'appui de certains pays. Interrogé également sur les récentes déclarations du nouveau président iranien Hassan Rouhani concernant la condamnation de l'Holocauste, le cardinal Turkson a estimé qu'il n'y avait pas de raison de douter de la sincérité de ses propos. Déjà, son élection, a-t-il souligné, donnait l'espoir d'un printemps dans les relations entre l'Iran et le reste du monde et entre l'Iran et les États-Unis, mais a-t-il précisé, il faut voir si les actions correspondent aux paroles prononcées à l'ONU. Les évêques canadiens ont un nouveau président. Réunis en assemblée plénière depuis le 23 septembre à Sainte-Adèle, ils ont élu ce mercredi Mgr Paul-André Durocher, 59 ans, à la présidence de la conférence épiscopale. Archevêque de Gatineau, il succède ainsi à Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton. L'assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques du Canada se poursuivra jusqu'à ce vendredi. Mgr Paul-André Durocher était jusqu'à présent vice-président de l'épiscopat canadien. Le Centre de télévision du Vatican fête ses 30 ans au mois d'octobre. C'est exactement le 22 octobre 1983 que naissait la télévision du pape à l'initiative de Jean-Paul II. Un congrès se tiendra justement à Rome le 18 octobre prochain afin de revivre l'histoire passionnante du CTV et d'en définir les nouveaux défis. Antonino Gallofaro.
La numérisation des précieuses archives, un nouveau site internet et une plateforme innovante pour la gestion des contenus font partie des diverses nouveautés mises en place dans le cadre de cet anniversaire. Un coffret avec à l'intérieur 5 DVD contenant les retransmissions les plus importantes de ces dernières années devrait également paraître. Dans un entretien publié par Satcafé, le magazine numérique de Talsat Italie, le directeur du Citivu est revenu sur les relations qu'il entretient avec le pape François et sur le futur de la télévision. Les caméramans du Citivu sont les seuls autorisés à suivre le pape au Vatican et lors de ses déplacements à l'extérieur. Les souverains pontifes, affirme Mgr Vigano, ne sont jamais protégés de l'innovation technologique. Le Citivu retransmet déjà en HD et n'a pas peur de l'Ultra HD qui a déjà été utilisé lors de la première messe du pape François. Son pontificat, poursuit le prélat, suscite un grand intérêt de la part des principaux networks nationaux et internationaux. Nous devons également gérer les nombreuses demandes de collaboration qui viennent du web.
Antonino Gallofaro. Nous partons maintenant pour la France. La 10e édition d'EcoCity, le sommet mondial de la ville durable, s'est ouverte ce mercredi à Nantes. C'est la première fois que cette rencontre est organisée sur le continent européen. Pendant 3 jours, 1500 élus et spécialistes environnement d'une 60aine de pays vont échanger sur ce que peut être la ville écologique d'aujourd'hui et de demain. Le reportage d'Anthony Torzek.
Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Et la tendance ne va pas s'inverser, d'où l'importance des enjeux autour du développement durable. Une ville durable, c'est une ville respectueuse de sa population et de l'environnement. Les bonnes intentions et les outils présents lors de ce sommet mondial ne manquent pas, mais les moyens, eux, sont souvent insuffisants, surtout dans les pays du Sud. Témoin Carole Tanqueux, c'est une environnementaliste camerounaise qui œuvre sur tout le continent africain pour un bureau d'études.
Très souvent, dans nos pays, l'environnement est perçu comme un luxe, alors que c'est notre quotidien. Nous avons beaucoup de problèmes de changement climatique, de déforestation, désertification, inondations, etc. Aujourd'hui, heureusement, il y a une prise en compte au niveau des politiques, mais il y a une difficulté au niveau de la mise en œuvre. Difficulté financière, difficulté au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire avoir la connaissance, avoir les solutions qui sont adaptables à notre contexte, et surtout la cohérence en termes d'organisation.
Et si les pays du Sud pouvaient proposer des solutions à ceux du Nord ? Carole Tanqueux y croit.
Il y a des solutions qui sont assez intéressantes en termes d'habitat, d'une façon traditionnelle de construire et d'utiliser des matériaux locaux et qui permet en fait de réduire la facture énergétique, mais qui ont été abandonnées. Donc il faut peut-être repenser et revenir à nos sources.
À l'issue de ce sommet mondial de la ville durable et en présence du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, la feuille de route renouvelée des réseaux de villes sera présentée, feuille de route qui devra attendre la conférence Climat de Paris de 2015. À Nantes, Anthony Torzek pour Radio Vatican.
Au 5e jour de la grève générale lancée au Bangladesh le 21 septembre par les ouvriers du textile, les manifestations se poursuivaient encore ce jeudi à Dhaka et dans les zones industrielles de Savar et de Ghazipur. Des affrontements importants avec les forces de l'ordre ont eu lieu et de nombreuses usines ont été vandalisées ou incendiées. Quelques jours avant le début des manifestations, une grande campagne de sensibilisation internationale venait justement d'être lancée par un collectif d'églises chrétiennes pour mettre fin à l'exploitation des travailleurs des manufactures de vêtements, leur assurer un salaire décent et rendre plus sûr leur environnement de travail. Rassemblant diverses églises anglicanes et protestantes du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, cette action collective a été lancée par Mgr Paul Sarker, modérateur de la Bangladesh Church. Son église avait déjà mis en place des programmes d'aide pour les victimes de l'effondrement en avril dernier de l'usine du Rana Plaza qui avait fait 1200 morts et 2500 blessés. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de la rédaction. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape.